Vous écoutez RTL.
Et tout de suite, dans la curiosité des extraterrestres. Bonjour Bruno Fuini, vous n'êtes pas un extraterrestre, hein, c'est pas ce que je voulais dire.
On ne sait pas.
Ravi de vous retrouver.
Bonjour.
Dans
bonjour,
la curiosité,
Bruno.
Vous êtes historien, écrivain et sociétaire de notre émission. Et c'est la vidéo de cet ancien ministre de la Défense canadien qui nous a donné envie d'en savoir plus sur les extraterrestres. Il affirme qu'il nous visite, ces extraterrestres, depuis des millénaires et qu'il n'y a plus de varaces d'aliens. Est-ce que des témoignages comme ça, Bruno Fuini, il y en a encore beaucoup aujourd'hui?
Il y en a beaucoup. Effectivement, Paul Hélière a fait ce témoignage longtemps après avoir été ministre de la Défense au Canada. Mais en France, en 1974, le ministre des Armées en exercice, Robert Gallet, avait fait une sortie de ce type qui avait beaucoup surpris à l'époque. Il y a beaucoup de témoignages. La difficulté pour un historien, c'est de les croiser, de les vérifier. C'est-à-dire, bien sûr, vous avez toutes sortes d'imposteurs, de gourous, de mythomanes. Et puis, parfois, vous avez plusieurs témoignages sur un même fait, se confortent les uns les autres, qui méritent l'attention. Est-ce qu'il y a eu des extraterrestres? Peut-être pas, mais il s'est passé quelque chose.
Ça veut dire que vous y croyez aux extraterrestres? Est-ce qu'on peut vous poser la question comme ça, vu que vous êtes historien et que vous avez vraiment travaillé la matière et les témoignages?
En fait, moi je ne crois en rien. Je raisonne en historien, je raisonne à partir des documents et des témoignages. Il y a beaucoup d'histoires qui en fait sont des bidonnages grossiers. Et puis, il y a quelques cas, et c'est cela que j'ai conservé dans cet atlas, quelques cas un peu troublants, où il y a eu quelque chose. Et où des documents soit très anciens, soit très récents, des témoignages divers, indiquent qu'il y a eu un phénomène qui a été observé par plusieurs personnes et que ce phénomène est difficilement explicable.
L'Atlas des zones extraterrestres, publié chez Artaud, qui sert de base à cette interview avec vous, Bruno Fuini. À quand remonte le tout premier témoignage? Il faut remonter plusieurs millénaires en arrière. Vous verrez, c'est ce qu'on va vous révéler dans un instant sur RTL.
Un phénomène qui existe, qui sont des observations plus ou moins troublantes et qu'on n'arrive pas au jour d'aujourd'hui à expliquer.
La curiosité est un vilain défaut.
Depuis l'arrivée des caméras vidéo, les documents amateurs sont de plus en plus nombreux à venir appuyer les témoignages d'OVNI. Des objets ou des lumières disparaissent à des vitesses vertigineuses dans nos cieux.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Les extraterrestres, existent-ils vraiment? Bon, si vous êtes comme moi, vous êtes plutôt sceptique. Et pourtant, il existe des récits, des histoires tout à fait fascinantes, étonnantes, que nous dévoile l'historien Bruno Fuini. Avec vous, on va dessiner un atlas des lieux où ces extraterrestres, ces ovnis, auraient mis les pieds, s'ils ont des pieds, hein, on ne le sait pas forcément.
Des
tentacules. Quelles sont les plus anciennes traces extraterrestres et elles sont où?
Alors on pourrait citer, bien sûr, les lignes de Nazca au Pérou, qui sont des dessins assez fascinants d'animaux, de symboles, et même un personnage en forme d'astronaute qui fixe le ciel avec des grands yeux et qui adresse une sorte de salut. Mais on n'est pas du tout certain qu'il y ait des extraterrestres là-dedans. C'est une des théories parmi d'autres. Et en Europe, il y a un lieu extraordinaire, c'est Val Camonica. Donc nous sommes en Italie, dans la province de Brescia, et dans cette partie-là, il y a des peintures sur des roches, des peintures préhistoriques. Les plus anciennes remontent au 8e millénaire avant notre ère, donc c'est vraiment très ancien. Là aussi, ce sont des animaux, des symboles, des bons hommes, mais il y a un couple mystérieux qu'on a appelé les cosmonautes préhistoriques, puisqu'on a...
Ils ressemblent à quoi ?
Il faut s'imaginer deux personnages qui semblent en lévitation. Hein, les corps sont un petit peu alanguis, comme cela. Ils ont l'air suspendus dans l'espace. Et la tête est entourée de quelque chose qui vraiment ressemble à un scaphandre. Donc c'est assez fascinant. Et chacun tient un ustensile dans sa main. On dirait une arme pour l'un, un objet de navigation, une sorte de sextant ou quelque chose comme cela. Donc c'est absolument fascinant comme dessin, d'autant que ce dessin est fait d'une matière crayeuse sur un fond noir, sur une pierre foncée.
Ouais.
Et donc on a vraiment l'impression, avec nos yeux d'aujourd'hui, de voir effectivement un dessin un peu enfantin.
Et d'être dans l'espace. Presque.
Voilà, de personnages qui flottent dans l'espace.
Donc, il y a eu d'autres représentations de ce type. Là, on est en Italie, par exemple en France, de personnages comme ça qui ressemblent à des extraterrestres ou à l'image qu'on s'en fait aujourd'hui.
Oui, on pourrait en trouver aussi en France, dans la Vallée des Merveilles. On pourrait en trouver dans différents endroits du monde. La vraie question, c'est quelle était l'intention de celui qui les a dessinés.
Ouais.
A-t-il vraiment dessiné des personnages qui venaient de l'espace ou est-ce rétrospectivement, parce qu'il faut savoir que dans les années 50-60, il y a eu une théorie ufologique qui s'appelle la théorie des anciens astronautes, et qui s'est emparée de tous les mystères de la préhistoire ou de la haute antiquité, pour dire bien c'est simple, ce sont des extraterrestres qui, et comme cela, vous avez eu des réinterprétations de la Bible, des grands récits mythologiques de l'humanité, pour dire, voilà, en fait, ce sont des preuves que des extraterrestres sont venus en des temps très anciens.
Et il y a ceux qui disent, oui, mais ce sont des paniers, en réalité, et pas des casques de cosmonautes, ce sont des paniers en osier qui dépasseraient, qui donneraient cette impression.
Tout à fait. C'est-à-dire que ces dessins-là, ces lieux sont importants pour les ufologues, pour autant ce ne sont pas des preuves définitives. Mmh. Mais c'est vrai que certains dessins sont troublants, c'est étonnant.
Oui, on peut les voir sur Internet d'ailleurs.
Vous parliez, Bruno Fulini, des années 50, c'est vrai que l'immédiate après-guerre, c'est presque le moment où les récits extraterrestres commencent à foisonner, à pulluler. Comment ça s'explique? Est-ce que c'est lié au début de la guerre froide, par exemple?
Totalement. C'est lié au début de la guerre froide, et la guerre froide sur fond de course à l'armement nucléaire. Mmh. Hein, il y a toute la mauvaise conscience des bombes utilisées au Japon, et la crainte d'une véritable apocalypse nucléaire entre l'Est et l'Ouest. Et c'est pour cela que les premières observations d'OVNI, en particulier de ce qu'on va appeler les soucoupes volantes, mm-hmm. C'est 1947. Et à partir de 1947, il va y avoir plusieurs vagues successives d'observations d'OVNI. On aurait pu penser d'ailleurs qu'à la fin de la guerre froide, l'ufologie allait disparaître, parce que vraiment c'était très très lié. L'ufologie continue, mais elle a pris des formes nouvelles à travers, par exemple, le conspirationnisme.
Oui, ça c'est intéressant aussi. Dans ces premiers témoignages des années 47-48, est-ce qu'il y en a certains qui vous semblent plus fiables, je mets des guillemets, que d'autres, Bruno Fulini?
C'est compliqué, mais il y a des choses étonnantes. Par exemple, tout démarre en fait le 24 juin 1947. Oui. Vous avez un pilote américain, homme d'affaires, Kenneth Arnold, qui vole dans l'état de Washington, du côté de Seattle, et il passe près du Mont Rainier. Et le long de cette montagne, tout à coup, il voit 9 engins qui volent à une allure extrêmement vive, et il va assez vite signaler cela. Alors, au départ, lui, il pense plutôt à une intrusion soviétique. On est toujours dans ce contexte de guerre froide. Il cherche à joindre le contre-espionnage, donc le FBI en l'occurrence. Il est dans une petite localité, il n'y arrive pas. Et donc il va s'ouvrir de ses observations auprès de journalistes d'une feuille de chou de l'Oregon, qui va avoir un scoop mondial, les extraterrestres arrivent. Et donc les journalistes...
Un soucoupe mondial,
effectivement. Elle est tout à fait justifiée, dans la mesure où c'est à ce moment-là que va se forger l'expression des flying saucers, c'est-à-dire des soucoupes volante. Mmh. En effet, Kenneth Arnold dit à ses journalistes, ces engins volaient comme des soucoupes. Et donc, à partir de là, il désignait le vol un petit peu à la façon des chauves-souris, un vol oscillant, et ça va être transformé en soucoupe volante. Pendant toute sa vie, il essaiera de démentir, mais c'est trop tard. Les soucoupes volantes ont décollé et on ne les arrêtera plus.
Ça n'atterriront plus. Tous ces récits, Bruno Fulini, vous les avez réunis dans un atlas des zones extraterrestres qui paraît aux éditions Arthaud. On va découvrir quelques témoignages d'une année spéciale, l'année 54, année extraterrestre. Restez avec nous sur RTL.
Une nouvelle fois, grâce à vous, RTL se classe première radio de France sur tous les indicateurs et réalise sa meilleure année depuis 10 ans.
Merci à vous et aussi 6 500 000 auditeurs qui font chaque jour le succès de RTL.
Merci beaucoup.
Merci d'avoir été avec nous.
Un grand merci.
Merci à tous.
RTL, première radio de France.
Un esprit d'équipe, ça s'entend tout de suite.
RTL.
D'étranges lumières dans le ciel. Des objets se déplaçant à des vitesses incroyables. Défiant les lois de la physique. Des vaisseaux venus d'un autre monde.
Ils existent, ils sont là.
Le mystère des ovnis fascine et déroute.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Toujours avec l'historien Bruno Fulini qui nous guide dans ce monde fascinant des extraterrestres et surtout des témoignages d'humains et de Français sur ces extraterrestres. On va explorer, grâce à vous Bruno Fulini, l'année 1954, décrite par les ufologues comme une vague extraterrestre. Tiens, on commence par la France. Chabeuil dans la Drôme, 26 septembre. Qu'arrive-t-il à Lucette-le-Bœuf ?
Alors, Lucette Leboeuf, qui est très très loin de se douter de ce qui l'attend, va avec son mari au cimetière de Chabeuil. On est dans la Drôme, pas très loin de Valence, petite commune tranquille. Mmh. Donc ils vont au cimetière, le mari s'attarde pour nettoyer la tombe familiale. Ils sont allés avec leur chien, un cocker qui s'appelle Dolly. Et donc elle va promener le chien un petit peu plus loin, puis elle a vu des murs, elle va cueillir des murs le long du mur. Quelque chose tout à fait banal, sauf que notre pauvre Lucette, tout à coup, voit passer un engin dans le ciel qui se déplace à une vitesse fulgurante et qui se pose dans un champ de maïs voisin. Alors elle est tétanisée, Dolly est carrément terrorisée, aboie, les autres chiens des alentours se mettent à aboyer aussi, et tout à coup, eh bien, les tiges de maïs s'écartent, et notre Lucette se retrouve nez à nez, raconte-t-elle, hein, c'est son récit, avec ce qu'elle va décrire comme un gosse sous cellophane, c'est-à-dire un petit être d'un peu plus d'un mètre de haut, sans bras, ou alors peut-être avec des bras rétractiles, on ne sait pas, et dans une sorte de combinaison transparente. Et donc, elle est absolument terrifiée, puis le personnage disparaît, et puis l'engin s'envole de nouveau. Elle va faire une véritable crise de nerfs, elle va passer 2 jours au lit, le chien est tétanisé pendant plusieurs jours également, et donc elle va faire, comme beaucoup de témoins dans cette année 1954, qu'on a appelé la Grande Vague, hein, c'est l'année où il y a eu le plus d'observations à travers le monde, pas seulement en France, elle va faire une déposition très détaillée, qu'on a donc dans les archives de la gendarmerie, c'est consultable au service historique de la Défense au château de Vincennes. Il y a même un dessin du petit bonhomme. Mmh. Mais surtout, ce qui est extraordinaire, c'est que 24 ans plus tard, quasiment au même endroit, à 2 km d'écart, vous voyez, c'est vraiment tout près. Hein,
et toujours dans la Drôme. Hein.
Toujours aux environs de Chabeuil, dans la Drôme. Eh bien, une autre habitante, qui là est au volant de sa 2 chevaux avec ses enfants, s'arrête parce qu'elle voit atterrir exactement le même type d'engin, également dans un champ.
Et elle a vu le petit garçon sous cellophane aussi, ou
non, elle est descendue de sa 2 chevaux, elle a marché vers l'engin et l'engin aurait redécollé à ce moment-là. Et il ne semble pas que la personne qui fait ce récit en 1978 ait eu connaissance du premier témoignage. Donc c'est tout à fait étonnant, il est très rare qu'il y ait comme cela un doublé dans une zone géographique aussi restreinte.
Autre récit, autre témoignage qui date de cette année 1954, la grande vague extraterrestre comme on l'appelait, octobre 54, un dénommé Charles Bou. Qui est-il, que voit-il, que vit-il ?
Charles Bou, c'est un conducteur de camion, un chauffeur-livreur en fait, qui a fait sa journée de travail, qui rentre chez lui, donc on est en Moselle, sur la nationale 3, il rentre vers la ville de Morsbach et la nuit tombe, hein, enfin, il est environ 19h, 19h20 le 7 octobre, la nuit tombe et il voit des lumières au milieu de la route, donc il pense à un barrage de police, il ralentit et il fait bien, car exactement comme dans une série célèbre, il se trouve véritablement face à face avec un engin illuminé qui est là au milieu de la route. Et notre David Vincent Français va ensuite raconter ce qu'il a vu à la gendarmerie la plus proche. Et là encore, il y a une enquête assez poussée.
Pourquoi son témoignage semble sérieux et crédible?
Parce qu'on fait également une enquête sur lui. Et son employeur, ses voisins, ses amis disent non, mais c'est pas du tout quelqu'un qui boit, c'est pas du tout quelqu'un de mythomane, c'est quelqu'un de très sérieux. Et par ailleurs, on va l'interroger plusieurs fois. Mmh. C'est-à-dire qu'il est d'abord interrogé par le gendarme de permanence, puis il va être interrogé par les gradés. Et à chaque fois, il fait le même récit, donc un récit cohérent. Et il donne énormément de détails, ce qui va parler en sa faveur. Et ce qui est intéressant, c'est que le rapport va partir donc à Paris, et qu'il se trouve qu'à l'époque, le ministre de la Défense, dont dépendent les gendarmes, c'est Emmanuel Temple, qui est un ancien aviateur. C'est le ministre de la Défense du gouvernement Mendès France. Et il se trouve que c'est lui qui va vraiment presser le gouvernement français à se doter d'armes nucléaires. Alors, y a-t-il un lien de cause à effet entre ces rencontres avec des extraterrestres et la nécessité de s'armer ? Là, je laisse bien sûr les ufologues imaginer toutes les théories possibles. On peut aussi penser que c'est une simple coïncidence historique. Mais c'est très troublant de penser que c'est le même homme qui va recevoir ce rapport et d'autres rapports du même genre de l'année 1954, qui va également être à l'origine du programme d'armement nucléaire français.
Oui, et ce qui est passionnant, Bruno Fugni, on vous connaît bien dans cette émission à la curiosité sur RTL. Vous êtes un historien, vous êtes quelqu'un de très rigoureux et vous avez appliqué cette rigueur à ces témoignages sur les extraterrestres. Et du coup, ça vous permet de dire assez tranquillement qu'il y a des initiatives un petit peu loufoques. Par exemple, un aéroport, une église et une école de langue martienne. À tout de suite sur RTL. RTL.
Des ovnis se sont-ils écrasés sur Terre ? Avons-nous eu un contact avec des extraterrestres ? Le gouvernement américain dissimule-t-il une énorme conspiration sur les ovnis ?
RTL.
Le terrain d'essai de Groom Lake, également connu sous les noms de Zone 51 ou Dreamland, a abrité de nombreux projets secrets américains depuis la Seconde Guerre mondiale. Le gouvernement y financerait des recherches portant sur des engins extraterrestres récupérés après s'être crashés sur notre planète.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
On y croit ou pas, en tout cas les extraterrestres attisent notre curiosité depuis plus de 70 ans. Bruno Fulini, est-ce qu'il est vrai qu'il y a un aéroport quelque part dans le monde qui est prêt à accueillir une soucoupe volante 24 heures sur 24, hein, c'est ouvert.
Oui, alors là nous sommes loin de la zone 51, nous sommes en France, sur le bassin d'Arcachon, il y a une commune touristique qui s'appelle Arès et il y a eu une nouvelle vague ufologique importante au milieu des années 70, j'avais 8 ans, je m'en souviens, et là-bas, il y avait un fondu d'OVNI qui a réussi à convaincre le maire que bon, si on ne voyait jamais d'OVNI, c'est tout simplement qu'on n'avait rien prévu de bien pour les accueillir.
Et même effectivement, pas une buvette, même pas rien. Un truc sympa.
Voilà. Et donc, ce qui aurait pu être une simple aire de jeu à Arès est devenu un OVNI-port, donc un aéroport à OVNI en
ça
quelque
ressemble
sorte.
À quoi
bon, c'est une sorte de terrain d'atterrissage avec une manche à air, des balises.
Il y a un message d'accueil
Oui, et il y a un monument. On avait même à un moment mis une sculpture en forme d'ovni, mais comme on est près de la mer, elle avait rouillé, donc elle a été remplacée par une nouvelle soucoupe, un petit peu dans le style du film La soupe aux choux. ça vous dit un petit peu dans quel esprit a été créé cet ovni-port. Et puis, il y a un monument avec une inscription un petit peu empreinte de regret. Nous vous attendons toujours. Il y a une commune qui a fait cet effort, et malheureusement, les ovnis n'atterrissent pas, alors qu'ils sont, par arrêté municipal, exemptés de toute taxe de stationnement. Au contraire de la commune de Châteauneuf-du-Pape qui en 1954 avait pris un arrêté interdisant le survol et l'atterrissage à tout OVNI sous peine d'enlèvement et de fourrière par l'intervention du garde champêtre.
Pas très sympa. Hein.
Voilà, Arès est beaucoup plus accueillant que Châteauneuf-du-Pape pour les extraterrestres.
Est-ce que l'ufologie, ces récits, ces témoignages, ces lieux, vous nous proposez un atlas des zones extraterrestres, Bruno Fulini, est-ce que ça provoque du tourisme ? Est-ce que c'est un attrait touristique ?
Oui, d'ailleurs l'OVNI-port d'Arès a donné des idées. Il y a une commune à Porto Rico, une autre au Brésil qui veut en construire un. Au Brésil encore, il y a eu une commune qu'on a appelée le Roswell brésilien, Varginha, où au milieu des années 90, trois jeunes filles ont vu un être un petit peu étrange qui aurait déclenché une sorte de chasse à l'alien. Et depuis, ça attire des touristes. Le château d'eau de la ville a été transformé en une sorte d'ovni en béton suspendu. Près de Roswell, vous avez tout un commerce de souvenirs, de babioles. C'est un thème qui plaît, qui a été popularisé par le cinéma, la BD. Et il y a bien sûr toutes sortes de petites choses qui sont proposées, des musées, des babioles, des souvenirs.
Et même une église, il nous reste vraiment quelques secondes, Bruno Fulini.
L'église, c'est différent. C'est une église swedenborgienne, donc qui a été créée d'après un philosophe et mystique du XVIIe, XVIIIe siècle, qui avait voyagé à travers l'espace. Par l'esprit. Et lui, sa théorie était simple, c'est que s'il y avait un dieu créateur, il avait créé partout des humains. Donc les autres planètes seraient peuplées de gens strictement identiques à nous. Et c'est pour entrer en contact avec eux qu'il y a ce culte.
Merci beaucoup Bruno Fulini pour ce voyage, cette géographie. Atlas des zones extraterrestres, c'est aux éditions Artaud. Et à très bientôt pour de nouvelles aventures ensemble. On est ravis de vous retrouver.
Merci.
Vous écoutez RTL.